de l'individu, qui est la communion du groupe, la grande stabilité. Hein. Et, mais la grande inconvénient, c'est qu'une certaine façon, l'individu n'existe pas.
Il n'existe pas.
Je crois que ça se fait référence à notre petite, à un petit enfant qui vit. Qui, alors, il y a plusieurs petits-enfants qui ont parlé d'un récit de ce qui s'est passé, et un enfant qui dit « Et moi, j'étais où, moi ?»« T'existais pas !» Mais ben, oui, mais alors, où j'étais ?»« T'existais pas !»
C'est très compliqué.
Très compliqué. Voilà.
D'ailleurs, donc, quand ils existent, on se demande comment ils ont fait pour ne pas exister.
Voilà, c'est pour vous brosser, en entrée en matière, le tableau de ces sociétés primitives. Parce que la Bible, elle, va s'enraciner, ça va naître, hein, de ces sociétés et de ces religions. Hein, de ces religions et de ces sacrifices. Alors, bon, je peux ne pas sauter la création du monde parce que dans la Bible, il y a deux récits. Hein. Il y a le récit de la création du monde, hein, dans le livre de la Genèse. Et ce récit mythique, parce que la Bible a ses récits mythiques, hein, la création du monde, c'est pas fait en 6 jours. Hein. On est tous d'accord. Mais ce récit mythique est porteur d'un enseignement, d'un enseignement très précis et tranche avec justement ces sociétés. Enfin, il est fait partie de ces sociétés primitives, mais il va trancher, donner par petites touches, hein, des orientations nouvelles. Alors, donc, dans la création, il y a 3 éléments, hein, qui tranchent.
C'est dans la création ou dans l'orientation ?
Dans la création du monde, du premier. Le premier aspect, c'est qu'il existe une divinité, qui est appelée Elohim. Mmh. Elohim. Elohim étant un terme hébreu qui signifie les dieux, Dieu. Mais là, il n'y en a qu'un. Donc, il y a une sorte de concentration de la divinité. Dans les sociétés primitives, il y a une dispersion totale de la divinité. Tout était divin. Non seulement les héros, les ancêtres, les dieux, mais tous les objets, tous les événements étaient porteurs, hein, de mystères et d'action. Hein. Ils étaient porteurs d'énergie, hein, d'énergie mystérieuse. Donc, tout était mystérieux et tout était porteur d'énergie. Alors que nous, aujourd'hui, on a des explications. Hein. Donc, ça démystifie. Donc, le premier aspect qui est nouveau, c'est qu'il y a une concentration de la divinité. Et l'autre aspect nouveau, c'est que la création... Alors, ce texte parle de la création du monde. Alors que dans les mythes, c'est la création du groupe, finalement, hein, de la société. Donc là, il ose parler de la création du monde, ce texte. Hein. Et dans la création du monde, cette création est un événement. Dans les sociétés primitives, il n'y a pas d'événement créateur. Là, il y a une création. À partir de rien, il y a une création, c'est Elohim parle, dit par une parole, et cette parole est créatrice. Donc ça, c'est tout à fait original comme approche. Et le troisième aspect...
Ah, je n'ai pas vu le deuxième.
Non, ça, c'est
la création.
Le deuxième, c'est la création. Le premier, c'est la concentration de la divinité. Le deuxième, c'est la création. Mmh. Et le troisième, c'est que l'homme, dans ce récit, à la fin, il crée l'homme, hein, et l'homme devient responsable de la création. Devient responsable de la création. Et en devenant responsable de la création, il est amené à être lui-même créateur. Ce qui est radicalement nouveau par rapport au récit mythique. Voilà pour le premier récit, donc ces trois aspects qui tranchent. Dans le deuxième récit mythique de la Bible, dans le chapitre 2 de la Bible, c'est l'histoire d'Adam et Ève. L'histoire d'Adam, donc, il décrit la création du genre humain. Et ce genre humain s'origine dans la création d'Adam et de Ève, un homme et une femme. Et donc, là, l'enseignement que veut donner le texte, c'est qu'on a tous la même origine. Donc, d'une certaine façon, descendant tous d'Adam et Ève, on est tous frères. On vient tous de là. Donc, d'une certaine façon, il y a une fraternité qui s'impose. Mais le récit va tout de suite nous montrer que cette fraternité se passe très mal. Se passe très mal et va mettre en scène la violence au sein de la fraternité.
Et la transgression aussi.
Je ne vais pas rentrer dans d'Ève. On a déjà étudié ce texte en détail, donc je ne vais pas reprendre tout le détail de ces textes. Je voudrais simplement souligner là l'aspect vraiment novateur qui tranche, c'est la fraternité et la mise en scène de la violence des hommes. Alors que dans les récits, la violence qui vient des hommes, dans les récits mythiques, la violence, elle remonte aux dieux. Elle remonte à des choses qui sont passées et qui... Il se passe des choses au-dessus de nous, donc il faut canaliser, on va offrir des sacrifices aux dieux pour que ça se calme, mais la violence est toujours projetée donc il y a, dans ces récits mythiques, une méconnaissance, un refoulement de notre propre violence, de la violence individuelle. Alors que dans les récits bibliques, la violence est mise en scène. Ce qui fait d'ailleurs qu'on reproche souvent à la Bible d'être très violente. Et forcément, elle est violente parce qu'elle met en scène la violence humaine. Bon, alors c'est tellement violent, souvenez là des récits, que finalement Dieu décide de renoncer à sa création. Et là, oh là 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 là, ce Dieu dit, là c'est la catastrophe, je vais détruire je vais arrêter cette création, je vais faire une ère à Z, remise à zéro de tout ce monde. Mais il y a un homme qui est juste, c'est Noé. Il y a un homme qui est juste. Et là, donc il y a un reste de cette humanité violente, il y a un reste. Alors, j'utilise ce terme de reste parce que par rapport à tout ce qu'on va vous suivre après, c'est la première fois, la première occurrence du mot reste. Mais tout au long de l'histoire, il va y avoir des ruptures dans la notion de peuple et il y aura toujours un reste qui va naître, qui va germer. Donc là, il y a un reste, c'est Noé. Vous connaissez l'histoire, il recrée, après le déluge, il recrée une nouvelle humanité. Et une fois cette humanité, au départ de cette nouvelle humanité, Dieu fait un pacte. Fait un pacte avec Noé et sa descendance. Ce pacte, on l'appelle l'alliance noémique, l'alliance de Noé. Et Dieu promet, s'engage, à ne plus détruire l'humanité, malgré la violence. Malgré la violence, il n'y aura plus d'humanité. Et donc le signe de ce pacte, ça va être l'arc-en-ciel, puisqu'il y a eu un déluge. Il y a un déluge qui manifestait le risque de destruction de l'humanité par l'eau. Donc il y a il va y avoir le ciel, un rayon de soleil, hein, qui va sortir de cette pluie et qui va donc faire un rayon, hein, et un arc-en-ciel, et cet arc-en-ciel sera le signe que désormais l'humanité ne sera plus détruite par Dieu malgré la violence des hommes. Donc la violence des hommes est intégrée, mais il n'y aura plus de destruction. Voilà. Et le récit après enchaîne. Bon, il y a l'histoire de Noé, trois enfants, Sem, Cam et Japhet, et de ces trois enfants vont découler tous les peuples de l'humanité. Hein? Alors, il décrit dans la Bible tous ces peuples, en détail, enfin en détail. Toutes cette descendance, il y a des généalogies de Sem, de Cam, Cham et de Japhet. Alors, ça exprime la connaissance qu'ils avaient à cette époque-là des différentes populations. Donc, ils ont mis en scène toutes ces populations. Et tous ces peuples, alors ça enchaîne sur un épisode très, très concret, très précis, c'est que il y a une sorte d'émiettement de peuples. Et cet émiettement des peuples, eh bien, angoisse les peuples. Parce que c'était dans l'émiettement, hein, on n'existe plus, on n'est plus qu'une miette. Hein. Donc, tous ces peuples se réunissent, c'est la fameuse histoire de la tour de Babel, se réunissent, ils ont peur de ne plus exister, ils se réunissent et ils se disent, on ne va faire qu'un seul peuple. On va faire qu'à ce peuple, et le texte dit, ils ont tous construit des briques identiques. Tout le monde se met à faire le même geste, à construire des briques et à monter une tour jusqu'au ciel. Donc, la peur de l'homme fait qu'il pense qu'en se réunissant, en faisant communion, uniformité, là, je veux dire, hein, ils vont pouvoir survivre et être puissants. Là, vous avez la démarche typique de la genèse du totalitarisme. Hein. Quand les gens ont peur, ils vont se mettre derrière quelqu'un unique, hein, qui va leur donner, et tous ensemble, et on sera plus fort. Hein. Hein, vous voyez, c'est une démarche très naturelle. On se moque de cette histoire, mais on le retrouve. Hein, on le retrouve dans tous les totalitarismes sont nés de cette peur. Hein. Et alors, donc, ils construisent cette tour, et a priori, dans le texte, on dit mais c'est bien qu'on soit tous unis. Hein, c'est bien que le peuple ne fasse qu'un. C'est quand même l'objectif. Hein. Fondamental qu'on retrouvait dans les sociétés primitives, ne faire qu'un. Et là, ce Dieu, ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas. Et alors, il va, pour éviter qu'il ne fasse qu'un, hein, il va créer des langages différents. Donc, il va mettre dans leur, chez chacun, des langues différentes. Du coup, les peuples ne se comprennent plus les uns les autres. Donc chacun va être obligé de repartir, si je puis dire, chacun avec ceux qui parlent la même langue. Donc ce Dieu sauvegarde la diversité des peuples. Au prix de l'incompréhension les uns des autres. On ne se comprend plus. Au risque de conflits. Au risque des guerres. Mais il semblerait que la sauvegarde de la diversité prime avant tout. Vous voyez un peu l'originalité de ce texte par rapport au...